Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport. Très heureux de vous accompagner en ce dimanche matin. On va vivre un dimanche exceptionnel sur RMC avec notamment l'événement Paris-Roubaix, la reine des classiques, qui s'annonce exceptionnel avec la présence sur les pavés de Tadej Pogacar, la star du vélo qui peut entrer un peu plus dans l'histoire. Mais faut-il souhaiter qu'il s'impose cet après-midi? Il y aura du lourd sur les routes avec, en plus de Poggi, évidemment Van Der Poel et les autres. Et ce qu'on est en train de vivre, les plus belles heures du cyclisme, ce sera le débat des GG à 11h. On retrouvera sur les routes de Roubaix Christophe Cessieux en direct qui sera avec nous. Et bien sûr, on reviendra aussi sur la magnifique victoire de Pauline Ferrand-Prévot hier, qui fait entrer peut-être le cyclisme féminin dans l'histoire. Le bras de fer des GG à 10h après la lourde défaite de l'OM à Monaco hier, 3-0, une défaite qui pourrait laisser des traces. L'OM va-t-il s'en remettre? On en parle avec nos GG et on vous attend, supporters de l'OM, au 32-16. Sans oublier vos rendez-vous habituels, le zapping, notre dossier sur le tennis féminin aujourd'hui, le tennis féminin français en plein marasme. Et on sera justement avec un des membres des GG, Julien Beneteau, capitaine des Bleus, qui sera avec nous après la débâcle lors de la Billie Jean King Cup. Le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio et le 32-16 pour participer au débat de nos GG. Les GG aujourd'hui composés d'une grande gueule qui, comme l'OM, s'est déjà fait marcher dessus. Fred Weiss. Salut Fred.
Salut, salut.
Oh, ça va arrivé une fois, hein, pas deux. Hein.
Oui, oui, ben, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Il y en a qui aiment ça. Ça va, tu vas bien?
Ça va très bien.
J'aurais voulu te voir au départ du marathon. Tu sais qu'on sera en direct avec Valentin Jamin. Mais
j'aurais pu être au départ. Alors tu m'aurais pas vu à l'arrivée, mais tu aurais pu me voir au départ.
J'aurais bien voulu. En tout cas, on t'aurait vu au loin. Ouais, ça c'est sûr. Une GG qui, comme l'OM, en a pris des revers. Sarah Pitkowski est avec nous. Salut Sarah.
Salut à tous. J'en ai mis aussi des revers.
Plutôt coup droit, revers.
Meilleur coup, c'est mon revers.
Revers, voilà, évidemment. Et toi aussi, tu as fait le marathon.
Ouais, j'ai fait le marathon.
Le marathon de Paris.
Ouais, et
un bon souvenir.
C'est
pas ton truc.
Non, c'est une super expérience de faire. Enfin, ouais. Je crois que c'est un des défis les plus cités par la population. Quand on dit quel défi sportif vous voulez relever, ils disent tous c'est un marathon.
C'est un vrai événement aujourd'hui. On suivra ça. Une grande gueule qui, comme l'OM, descend plus vite qu'il ne monte. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Surtout maintenant, ça c'est sûr. Surtout maintenant, salut à
tous. Ça va Jérôme?
Ouais, ça va bien.
C'est un peu ta journée là quand même. Hein. Paris-Roubaix, on va en parler beaucoup évidemment dans l'émission.
Très bien, très très belle journée, hein. C'est une journée historique, hein, à chaque fois, le week-end de Paris-Roubaix c'est quelque chose. Et puis là, Pauline hier, le duel tant attendu aujourd'hui, retour du vainqueur du Tour sur les pavés, c'est pas arrivé depuis de trop longues années, ça va être très sympa.
Mais vous avez un lien de famille, parce que François Pinet, Jérôme Pinault, il y a peut-être un truc, parce qu'on va faire une émission spéciale.
On n'a rien à voir avec François Pinault. En revanche, on fait le duo François Pinault, là on n'est pas là, parce que
c'est plutôt inquiétant.
En termes de compte en banque, malheureusement, c'est pas le cas. Enfin, je parle pour moi, pas pour...
Le même. Après, si on peut faire valoir quelque chose, une reconnaissance, moi je passe.
Et Fred. Comme l'OM a bien dû prendre quelques valises par-ci par-là. David Douillet est avec nous. Salut David.
Salut les copains.
Ça va David?
Salut. Ça va.
Le marathon, super. C'est pas un truc qui te branche? 42
km. C'est super. Non mais vraiment, c'est sympa.
Bon, c'est une promesse. Depuis le début de la matinée, on est avec Valentin Jamin qui est très sympa parce qu'il quand même prépare la course depuis 3 mois. Mais il accepte qu'on puisse lui parler au téléphone et qu'on puisse le rejoindre de temps en temps. Là, il est parti là depuis quelques minutes et on va le rejoindre en pleine course, pendant la course.
Il faut le rejoindre vite parce qu'après, il répondra plus.
Bah, il n'a jamais fait de marathon. Hein. Oui, c'est son premier marathon.
Ouais, mais on va lui faire passer un peu le temps.
C'est un peu long. Bon, on va en parler bien sûr du marathon, mais d'abord c'est l'heure d'un nouvel épisode de notre série préférée.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Koh-Lanta, la légende. Comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un.
Tadej Pogacar qui remporte donc à 150 mètres d'un arrivé. Il se retourne encore une fois pour constater l'écart abyssal qui le sépare aujourd'hui de ses concurrents et notamment de Mathieu Van Der Poel.
Ils ont bravé 40 jours de survie, surmonté tous les dangers.
Mats Pedersen,
il a bien travaillé, vainqueur en 2020 et en 2024. Il remporte son deuxième Gambier-Belgium consécutif.
Les héros vont s'affronter une dernière fois dans la plus mythique des épreuves.
Mathieu Van Der Poel.
Il est trop fort, Mathieu Van Der Poel, et il semble surdominer cette arrivée. Tadej Pogacar derrière Philippe Ogana, mais c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui va s'imposer. Oh,
qui sera sacré légende parmi les légendes.
Wout Van Aert, Michael Matthews est costaud à la lutte avec Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, qui s'impose ici devant Michael Matthews et Pogacar.
L'une des séries préférées, en tout cas ce duel Pogacar-Van Der Poel qui nous tient en haleine depuis le début de l'année sur les classiques. Une nouvelle occasion de voir ces Avengers du vélo à l'œuvre aujourd'hui lors de cette course. L'Enfer du Nord qui porte très très bien son nom. Et pour parler de cette course, quelqu'un qui est sur place en direct, on trouve Christophe Cessieux. Il pouvait pas lâcher comme ça la place. On le retrouve, notre GG préféré. Salut Christophe.
Salut les gars. Ben oui, moi comme Valentin, je suis dans la trouée d'Arambert en train de pédaler là, et je pense gagner le vélodrome d'ici demain après-midi.
Autant te dire que si tu étais dans la tranchée d'Arenberg, la voix serait pas aussi nette. À mon avis,
non, mais
je me suis arrêté.
François Pignon, je me suis arrêté.
Il a eu un petit ravitaillement.
Le moteur dans le vélo fonctionne bien.
Le moteur marche très très bien.
Ouais, oui.
Et en plus, Marc m'a donné quelques petits trucs avant de partir hier, donc je suis nickel.
Nickel, Christophe Cessieux, tant mieux. Tu vas pouvoir participer au débat avec nous pour la première fois en pro. Hein. Tadej Pogacar se présente sur les pavés de Paris-Roubaix avec, donc, on l'a dit, la possibilité de marquer l'histoire. Bernard Hinault, dernier vainqueur du Tour de France à s'être imposé à Roubaix, c'était en 1981. Le dernier vainqueur sortant à avoir remporté l'Enfer du Nord, c'était Eddy Merckx en 1973. Vous avez vu, ça remonte d'où l'événement. Si jamais Tadej Pogacar pouvait s'imposer. Et justement, le Slovène, il est souvent comparé au cannibale Eddy Merckx. Alors, je vous pose cette question, les GG, ce matin. Faut-il souhaiter une victoire de Tadej Pogacar cet après-midi lors de Paris-Roubaix? Oui ou non, Fred Weiss?
Évidemment, oui.
David Douillet?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Bah, oui.
Christophe Cessieux?
Bah, oui.
Jérôme Pinault.
Eh ben non.
Ah non, mais tu sais, depuis que je sais qu'il y en a un qui dit non, j'attends de connaître ses arguments.
On a hâte de savoir ça. Juste avant, on va accueillir Maria Azé, qui est également en direct avec Christophe de Roubaix pour suivre cette course. Salut Maria.
Salut François, salut tout le monde.
Alors toi, tu as pu justement les voir de près, hein, ces deux héros, ces deux idoles, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, opposés à nouveau aujourd'hui. C'était donc hier, tu as pu les voir. Est-ce qu'ils ont déjà lancé leur duel lors de cette journée de conférence de presse?
Oui, tout à fait. Évidemment, c'est le duel dont tout le monde parle. Alors peut-être le duel le plus alléchant du sport mondial en ce moment. Un partout sur les monuments pour Pogacar qui s'est imposé sur le Tour des Flandres et Van Der Poel sur Milan-San Remo. Van Der Poel lui tentera d'aller chercher son troisième titre sur Paris-Roubaix et il pense que l'Enfer du Nord va être plus compliqué pour le Slovène.
Le Tour de Flandre, c'est un peu plus facile pour lui pour faire la différence dans l'écoute. Je pense que tout le monde sait comme il était fort au Tour de France sur l'étape pavée. Donc, ouais, je suis 100% convaincu qu'il peut gagner demain. Donc, ça va être un des favoris.
Voilà, il parle déjà de son concurrent principal, Mathieu Van Der Poel, car les 259 km de Paris-Roubaix sont tout plats. Mais Pogacar l'assure, il est venu pour gagner pour sa première participation à Paris-Roubaix. Le champion du monde slovène est déjà venu s'entraîner plusieurs fois sur les pavés du Nord. Il a notamment battu des records Strava sur trois secteurs, donc il est prêt.
Je commence à aimer les pavés, au moins l'entraînement. Mais dimanche, c'est une autre histoire. On sait que ce sera dur de se battre pour la victoire. Le plus important, c'est de rester concentré et d'avoir de la chance pour survivre dans cet enfer du Nord.
Côté compteur, Tadej Pogacar a remporté 8 monuments dans sa carrière, 7 pour Mathieu Van Der Poel. Et ce duel tient toutes ses promesses et promet une course exceptionnelle cet après-midi.
Merci beaucoup Maria, et tu suivras ça évidemment et toutes les réactions avec toi à l'issue de cette course. Et tu reviendras d'ailleurs nous voir Maria à 10h30 puisqu'on parlera avec toi de Pauline Ferrand-Prévot. Elle a déjà eu sa dose d'émotion Maria lors de ce Paris-Roubaix.
Que de champion.
Et oui, exactement. Je rappelle donc la question pour nos GG ce matin. Faut-il souhaiter une victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui? Et je vais demander à celui qui est sur place. place Christophe Cessieux. Tu as dit oui, Christophe.
Oui, évidemment, évidemment, parce que c'est quand même le phénomène et la spécialité de ce Paris-Roubaix 2025, c'est de savoir que un vainqueur du Tour s'aligne au départ. Et j'aimerais bien que l'exemple donné par Tadej Pogacar et bien puisse inciter d'autres grands coureurs de Tour à s'aligner dans les années à venir. C'était la tradition avant le Paris-Roubaix. Et bien tous les coureurs, les grands coureurs des années 50, 60, 70, la disputaient. Eddy Merckx, il n'aurait pas imaginé une seule seconde ne pas disputer Paris-Roubaix. Bon, pour Bernard Hinault, c'était un peu plus compliqué parce qu'il détestait cette course. Il disait c'est une saloperie. Mais enfin, il est quand même venu et il l'a remporté. Et je pense que l'exemple donné par Poggi pourrait inciter les autres à venir. Et puis parce que moi, j'adore l'histoire du cyclisme. Eh bien, moi, j'ai envie que Poggi aille chatouiller le seigneur et maître de l'histoire du cyclisme. Et pour ça, il lui reste cette course ainsi que Milan-San Remo à aller chercher ce garçon, même s'il le fait. Faut toujours rester sur ses gardes en matière de cyclisme, mais ce sera sans doute les arguments de Jérôme tout à l'heure. Eh bien, j'adore sa façon de courir, j'adore sa façon de vivre. Il n'a rien à faire des convenances, de la prudence qui aurait dû l'inciter finalement à ne pas participer à cette course aujourd'hui, comme le faisait Armstrong ou même Merckx. Non, il aurait dû évidemment se concentrer sur le Tour de France, mais tout ça, il n'en a rien à faire. Non, il est là pour s'amuser. Le vélo, pour lui, c'est d'abord du fun, c'est évidemment gagner les courses, mais c'est aussi montrer qu'il est un garçon comme les autres. Et donc, moi, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir remporter ce Paris-Roubaix, et j'ai envie de le voir s'approcher des 19 monuments remportés par Eddy Merckx, parce que ça va faire peut-être partie de l'histoire dans les années à venir, savoir s'il peut rattraper le seigneur et maître du cyclisme mondial.
Alors, Jérôme, on va t'entendre, bien sûr, tu vas pouvoir réagir. T'es le seul à avoir dit non, mais j'imagine que Fred, David, Sarah, vous êtes sur la même ligne que Christophe, c'est pour l'histoire, c'est ça? C'est pour ça que vous avez dit oui, Sarah?
Pour l'histoire, c'est aussi parce que depuis le temps que je participe au GG, on m'a toujours expliqué que dans le vélo, il y avait des profils pour gagner le Tour, il y avait des profils pour gagner des étapes, des courses d'un jour. On m'a expliqué plein de fois, oui, mais lui, il va gagner des étapes sur le Tour de France, mais il ne peut pas gagner le Tour de France. Je me souviens des débats sur Julien Alaphilippe qui avait le maillot jaune, où peut-être naïvement, on se disait, mais pourquoi il pourrait pas gagner le Tour de France? Et on m'expliquait par A plus B qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire sur le vélo. Et donc, le fait d'avoir Pogacar qui gagnerait, ou en tout cas qui aujourd'hui fait figure de favori, au même titre que Mathieu Van Den Poel et d'autres au départ de Paris-Roubaix, eh bien, ça fait tomber
ces barrières.
Ouais, ces barrières qu'on m'avait expliquées plein de fois, et j'osais mais plus poser des questions.
T'as pas vu le Tour de France d'il y a 4 ans où Van Aert a gagné en haut du Ventoux,
oui.
Au sprint, un contre
oui.
la montre, il a monté
mais
les
quand je te dis ça, sur les 4 dernières années, je te dis.
Ça a changé là quand même.
Oui, ça commence à changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Pogacar qui gagne, eh bien, si tu veux, quand t'es pas un spécialiste de cyclisme, tu peux t'approprier une star et tu peux le soutenir et peu importe finalement que tu comprennes tous les tenants et les aboutissants d'une course comme le Paris-Roubaix, quoi. Voilà.
Ouais, mais tu peux t'approprier aussi une course, c'est-à-dire que Pogacar, pour tout le monde, c'est celui qui gagne tout sur le Tour de France, même si c'est pas exactement ça. Sur le dernier Tour de France, c'est ce qui s'est passé. Ben, moi, ça me permet de m'approprier justement ce Paris-Roubaix, parce que je me dis, ce coureur, extraordinaire. Le duel. Non, le duel, je m'en fous du duel. Moi, Pogacar,
il
me fait regarder le cyclisme, il me fait apprécier le cyclisme, et je rejoins Christophe. L'histoire. On est en train de voir quelque chose d'extraordinaire. On est en train de voir un coureur magnifique, formidable, extraordinaire, devenir une légende, peut-être. Et moi, le fait de vivre à cette époque et de pouvoir dire, j'étais là quand Pogacar a gagné Paris-Roubaix, en plus d'avoir en enchaînant le Tour de France. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, effectivement, je suis qu'un néophyte par rapport à Jérôme Pignon, par exemple, mais je représente plus de personnes que
Jérôme Pignon. Mais non, Fred, parce qu'en fait, ce qui va se passer, si Tadej Pogacar gagne Paris-Roubaix aujourd'hui, il y a des gens comme toi qui vont dire c'est génial, j'ai participé à l'histoire et j'ai
j'ai vécu quelque chose, j'ai eu la chance de le voir.
Et il y a les 80% qui vont te dire j'arrête de regarder ce sport parce que ce mec est dopé, c'est pas possible de te gagner.
Mais il y en a marre parce que c'est le cyclisme, arrêtez avec le cyclisme, mais même que vous parliez de dopage à chaque fois, c'est insupportable.
Tu sais pourquoi moi je veux pas qu'il gagne? Pourquoi? Parce que
je sais la suspicion.
Non, et parce que c'est la légende, et parce que on parle aussi énormément aujourd'hui de sensations, d'émotions. L'émotion, on va l'avoir dans le duel. Il faut que Van der Poel, Pogacar, ça continue.
Et donc, arbitré par d'autres. Peu importe qui passe la ligne d'arrivée.
Si lui gagne, Christophe fait référence à Eddy Merckx. Et là où je ne vous rejoins pas, c'est que si Eddy Merckx faisait partie de ces coureurs des temps d'aujourd'hui, on se ferait chier les gens. Parce que ça, c'est toujours le même qui gagne. Il était surdominateur. Et si aujourd'hui, Tadej Pogacar gagne, c'est Paris-Roubaix.
Mais c'est de sa faute si c'est le meilleur. En fait, je comprends pas ce procès d'attention. C'est-à-dire qu'il est trop, il est meilleur. Il est pas plus fort que les autres. Mais moi, c'est grave. C'est vraiment pas bien. Arrête de gagner.
Jérôme, il est pas surdominateur sur les classiques encore, Pogacar.
Si aujourd'hui, il fait 60 ans tout seul, qui gagne.
Oui, mais ça sera pas le cas. Tu sais bien que ce sera pas le cas. Moi, j'y crois pas. Van der Poel le bat quand même sur Milan San Remo. Van der Poel s'accroche dans le Tour des Flandres. Bon, évidemment.
Sa course à Van der Poel. Logiquement, Van der Poel, Van Aert, Pedersen, presque, c'est plus fort que Pogacar sur ces courses-là. Et aujourd'hui aussi, normalement.
Sur Paris-Roubaix, normalement aussi. Je ne souhaite pas
de mal à Pogacar. S'il gagne, je veux qu'il y ait un beau duel. Je veux que ce soit serré.
Voilà, c'est ça.
Évidemment, tu as raison quand
tu dis que Merckx, à son époque, dans les années 70, tout le monde le détestait parce qu'il écrasait tout. Il écrasait ses adversaires. En France, quand il venait sur le tour, c'était Abba Merckx. Les gens lui mettaient des coups de poing dans le foie. Je me rappelle une arrivée au Puy-de-Dôme parce qu'il battait Bernard Thévenet. Il était détesté. Mais il était aussi un peu, pas détesté, stable, mais il donnait pas le même visage.
Il était moins sympa
que Poggi. Poggi, il est sympa. Poggi, t'as envie de l'aimer, t'as envie de le supporter. Eddy Merckx, c'était pas le cas, mis à part les Belges, évidemment. Il y a aussi une différence de tempérament. Il y a évidemment le pire sur l'échiquier, c'était Armstrong. Mais bon, Armstrong, il a jamais fait le Paris-Roubaix, il était détestable. Merckx, c'était entre les deux. Et Pogacar, lui, t'as envie de l'aimer, même s'il gagne tout.
Alors, David Douillet.
Non mais moi je trouve que le s'il était tout seul, s'il avait pas de concurrence, je pourrais être d'accord avec toi, Jérôme. Mais ce que tu as cité prévalait pour la semaine dernière au Tour des Flandres avec Van Aert, avec Van der Poel, avec Pedersen. Les trois auraient pu sortir du lot. D'ailleurs, le suspense a été tenu jusque dans les 50 derniers bornes. Et puis après, ils ont coincé. J'ai entendu d'ailleurs, est-ce que j'ai rêvé ou pas, mais il me semblait que Van der Poel était un peu malade ce jour-là, non?
Il avait diminué la semaine précédente.
Un petit rhume dans la semaine, ouais.
Bon, voilà. C'est une chute. Donc, voilà, le rhume, il est peut-être passé. Peut-être qu'il est, il est plus en forme là. Moi, je trouve que vous enterrez un peu vite Van Aert, qui coinçait pas sur le plat. Il a coincé dans les bosses la semaine dernière, mais je l'ai pas vu coincé. Je l'ai vu même plutôt pas mal, avec quelques attaques, etc. Donc c'est un duel, ouais, sur le papier. Mais moi, je mettrais plutôt un petit trio sur le là aujourd'hui.
Un quatuor, même, parce que Pedersen.
Ouais, avec Pedersen aussi, c'est pas mal aussi. Tu as raison, c'est pas mal. Donc l'ami Poggi, il y a pas une bosse dans Paris-Roubaix, donc il va pas pouvoir faire la différence grâce à ça.
Il y a pas le parcours idéal pour Tadej Pogacar aujourd'hui non plus.
Mais ouais, c'est ça.
Pour revenir sur la question, faut peut-être pas souhaiter qu'il s'impose sur un parcours qui est pas fait pour lui.
Ce que je voulais dire, c'était là pour moi, il y en a pas un qui domine, quoi. Voilà. On sait là aujourd'hui quand ça va démarrer. Ouais, non, mais on peut pas dire, ça va être, c'est sûr que c'est lui.
Alors pour Roubaix, non, en plus, c'est Paris-Roubaix, c'est la course avec le plus d'incertitudes. Aujourd'hui, il y a énormément de partants, il y a deux grands favoris. Si Tadej Pogacar ou Mathieu Van Der Poel s'imposent, c'est presque logique, on attend ça. Mais moi, aujourd'hui, mon favori dans ma tête, c'est Jasper Stuyven. Personne ne le connaît parce que Roubaix peut servir aussi un coureur comme ça qui va profiter d'un certain nombre de circonstances. Je sais pas quel temps il fait, Christophe, là-haut. Mais on avance un peu de pluie, il a plu cette nuit. Ça va changer la chose. Et surtout, c'est qu'on parle tellement de ce duel. Qu'on a vu par le passé parfois des duels avec Moussaïd Chmil, et c'est un Servais Snaven qui va gagner. Quand les Français ont gagné Frédéric Guédon, le dernier à avoir gagné, il était loin d'être favori. Le Paris-Roubaix, c'est tellement compliqué à gérer et tellement
difficile.
Il faut avoir du bol aussi.
Faut tout avoir. Faut tout avoir.
Oui, donc, voilà, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire.
Tu es d'accord avec nous, Jérôme?
Non, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire.
Mais ça va dépendre des circonstances. Si, moi, je vous le dis, si, moi, je vois Tadej Pogacar, s'il gagne, il faudra qu'il fasse un numéro tout seul. Il ne peut pas gagner sur le Vélodrome au sprint. Il devra lâcher les autres. S'il lâche les autres, s'il sort à 50 bornes de l'arrivée, comme un Bonen, comme un Cancellara, comme un coureur spécial, Backstedt avait fait ça, un mec qui fait 1m80, 60, 80 plombes, qui est spécialiste. S'il nous fait ça aujourd'hui, j'ai grand peur que...
Je pense qu'il peut faire ça, Christophe.
À Vanderpool, sur son terrain.
Ah oui.
Franchement.
Ah oui.
Moi, je vais revenir sur ce que tu disais, Jérôme, en disant que finalement, tu ne souhaitais pas tant que ça que Pogacar gagne parce que tu ne veux pas qu'il y ait des suspicions.
C'est pas par rapport à
l'homme, hein. Oui, qu'il y ait des suspicions qui reviennent. Mais là, tu viens de nous dire, vous venez de nous exposer que Paris-Roubaix, c'est une course particulière où il faut un peu de chance, il y a beaucoup d'incertitudes. Quelle est la part finalement de dopage là-dedans? Puisqu'en fait, c'est tellement stratégique faut une part de chance. J'ai envie de te dire, s'il y a bien une course où on remettrait pas en question le vainqueur parce qu'il y a plein de phénomènes extérieurs qui peuvent arriver sur cette course. Je dis, mais si c'est lui qui doit gagner, évidemment que ce sera lui. Mais j'ai pas le sentiment, sur une course d'un jour, que ça remette en question la préparation ou les suspicions autour de Pogacar. Non, Sarah, on n'est pas sur trois semaines.
Il y a des spécialistes qui vont te sortir demain, si Pogacar s'impose, qui vont te sortir toute la liste des watts en disant, c'est pas possible. Exactement. Ce mec-là est super.
Déjà, quand il a battu les records, il a battu les records la semaine dernière, il était derrière une moto, il avait vent portant, il est parti 20 bornes après le premier secteur. Ouais. Et là, déjà,
oui, mais ça n'a pas empêché aujourd'hui, tous les détracteurs
aujourd'hui,
de sortir
mais exactement,
leur
moi, les détracteurs, je travaille dans un magasin de cycle toute l'année. Moi, les gens, je les crois, je les entends. Les spécialistes de vélo, évidemment, ils adorent s'arrêter, discuter avec moi. Ils commencent déjà à pu y croire. Et si, je peux te dire que si Pogacar gagne Roubaix et lâche les spécialistes sur les pavés de Paris-Roubaix aujourd'hui, ça va continuer à décrédibiliser tout cela. Et j'en ai pas envie. Moi, j'ai envie que Tadej gagne parce que j'adore ce coureur. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait un beau duel. Le voir faire un numéro seul sur les pavés aujourd'hui, serait pas bon pour le cycle.
Alors, okay. Mais tu crois que ce serait bon si Van Der Poel fait la même chose? Si Van Der Poel, c'est
plus logique,
Christophe. Mais non, parce que Van Der Poel, rappelle-toi, l'année dernière, quand il fait son numéro il y a deux ans, bah, c'était la même chose. On a sorti les watts. Et oui, mais regardez, Van Der Poel est sûrement dopé.
Il y en a qui sont un peu obsessionnels. Voilà, obsédé par tout ça. 9h27, je voulais quand même qu'on prenne Philippe parce que il est, je pense, dans le même mood que Jérôme ce matin. Philippe est avec nous, fan de vélo. Salut Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe et je voudrais commencer mon intervention par une petite citation de mon ami Lili. J'adore la saucisse, mais comme le cyclisme, mais je veux surtout pas savoir comment c'est fait. D'accord.
D'accord, très bien. On oublie.
Le message est passé. Bon, ben, bienvenue chez les Bisounours. Hein, Christophe Cézieux, que j'admire, hein, au demeurant. Alors là, mais Pogacar qui gagne avec une concurrence phénoménale. Parce que merde, s'il y avait 6 nations qui faisaient du vélo, hein, il y avait 5 mecs qui pouvaient gagner par ouvert. Alors Pogacar, il gagne sur tous les terrains, toute l'année, sans fatigue, sans rien, il écrase tout le monde. Et tout le monde trouve ça formidable. Bah non, pour moi, ça tue le cyclisme. Quand on est amateur de cyclisme, forcément, on a envie de voir des duels, on a envie de voir de la bagarre, on a envie de voir...
Mais t'en as pas vu des duels depuis un mois, t'en as pas vu des duels?
Comment?
Il y en a eu des duels, Philippe, avec Van Der Poel.
La semaine dernière, au Tour des Flandres, il a mis 15 mines dans les monts. Évidemment, les mecs derrière, au bout d'un moment, ils ont explosé.
Et dans Milan-San Remo, il a mis 15 mines, mais il les a largués les autres.
Milan-San Remo, c'est du 5-6%.
Quand ça t'arrange, il est dominateur, mais quand ça t'arrange pas, il est pas aussi dominateur.
Écoute, Christophe, t'es un très bon journaliste, mais là, je pense que tu nous prends pour des jambons, parce que Milan-San Remo, c'est 5-6%, et il y a l'aspiration. Là, dans les pentes à 15%, bah là, Van Der Poel, il a explosé en vol. Voilà, c'est tout. Après, j'ai beaucoup plus de sympathie pour Mathieu Van Der Poel que pour Pogacar.
Mathieu Van Der Poel, on a aussi ce problème.
Merci, Philippe.
Moi, j'ai juste envie, si on est amoureux du cyclisme, arrêtons
d'alimenter ces gens qui n'y croiront jamais. J'avais cette discussion là en venant. Un mec qui va marquer 20 buts dans le championnat, il va être super, ça va être un génie et on va rien douter de quoi que ce soit. Un mec qui fait du vélo, on a donné ça. Mais faut arrêter de douter maintenant. Mathieu Van Der Poel, parce que c'est le petit-fils de Poulidor, c'est génial. Parce qu'il a des racines françaises, c'est génial. Et arrêtez avec ça. C'est pas parce que un mec à ces origines là, qu'il est sympa, qu'il fait pas comme les autres.
Après, on a le droit de préférer Van Der Poel à Pogacar.
On peut pas dire lui parce qu'il est slovène, il est dopé, et lui parce que c'est petit-fils de Poupou, il l'est pas. Faut arrêter avec ça.
Surtout quand on avance des choses, il faut effectivement avoir des preuves de ce qu'on avance.
C'est surtout que si les passionnés de cyclisme comprennent quelque chose au sport qu'ils suivent, on sait très bien qu'un Paris-Roubaix et qu'une grande classique, ça sacre souvent le plus fort d'entre eux. Maintenant, Paris-Roubaix a une telle part de suspense à cause de ses pavés, des chutes, des crevaisons, qui peut sourire à quelqu'un d'autre. Mais un homme très fort qui est au-dessus du lot, comme les Pogacar, comme les Van Der Poel, comme l'est aussi Pedersen ou Van Aert, doit gagner Paris-Roubaix. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute à avoir. Ce sont des coureurs qui font ça toute leur vie.
Non, David, on va faire une petite pause. On va continuer bien sûr d'en parler, vous inquiétez pas. Juste pour vous dire que moi, ce que je retiens de ce qu'a dit Philippe, et on le remercie d'être passé, c'est que Christophe Cessieux est un excellent journaliste. Hein, il l'a dit quand même.
Prenais mes auditeurs pour des jambons. Alors évidemment, Fred, oui, je le prends pour un gros jambon, mais quand même pas les autres.
Bon, c'est un compliment. Fred, t'inquiète pas. Christophe, d'ailleurs, tu vas te transformer en Miss Météo dans un instant, puisque tu vas nous donner la météo à Paris-Roubaix. Ça pourrait avoir un intérêt et un impact, évidemment, sur la course dans un instant. Restez avec nous. On continue de parler de cette classique mythique sur RMC. À tout de suite.
En tête donc de Paris-Roubaix, on est là entre le carrefour de l'Arbre et Gruson exactement, c'est-à-dire à 12 km de l'arrivée.
RMC jusqu'à midi.
C'est là que Marc Madiou a fait son démarrage et en a profité pour fausser compagnie, notamment à Greg LeMond qui était déjà légèrement décramponné.
Les grandes gueules du sport.
Bravo Marc Madiou, merci pour cette victoire.
C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Il vient de gagner la plus belle course de l'année.
François Pinet.
Et oui, Marc Madiot qui était avec nous hier dans les grandes gueules du sport, qui a remporté deux fois Paris-Roubaix 85-91 et qui sera dans la voiture en tant que directeur sportif tout à l'heure. On parle bien sûr de Paris-Roubaix avec Sarah Pitkowski, Fred Weiss, David Doulet, Jérôme Pinault et Christophe Cessieux qui est en direct de Roubaix. Dans un instant, il y aura le zapping des GG. On ira faire un petit coucou à notre reporter qui est toujours en course là pour le marathon de Paris, Valentin Jamin. On en parlera en direct avec lui et on parlera aussi de rugby avec le choc à venir Toulouse ce soir en Coupe d'Europe. Mais d'abord, donc, la suite de notre débat. Faut-il souhaiter une victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui? Beaucoup de réactions évidemment sur l'appli RMC Direct Studio. Et ta réaction, David, juste avant la pause, tu voulais réagir à ce que disait Jérôme, il me semble.
Oui, je voulais réagir. Je voulais juste poser une question, une toute petite question. J'ai le sentiment que ça peut jouer aussi dans les équipes, avec les équipiers, beaucoup plus que sur le Tour des Flandres. J'ai l'impression que le travail des équipiers va être fondamental. Donc c'est celui qui aura les meilleurs équipiers, la meilleure cohésion, le moins d'accidents et le moins de déperditions chez les équipiers, qui pourra aussi aller le plus loin possible. Parce que, et notamment pour Pogacar. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, c'était une question.
Ouais, non, mais c'est alors t'as tout à fait raison sur le coup. Pogacar, c'est pour ça que je crains David le solo, parce que il a une équipe moins forte que les autres, et surtout il a tout intérêt à ce que il se retrouve très très vite en mano à mano avec les favoris pour une question de placement qu'il a moins l'habitude que les autres, et puis il a pas l'équipe pour l'emmener très loin. Donc on sait qu'à Roubaix la supériorité numérique par équipe est très importante. Donc Pogacar, il a une stratégie, à mon avis, en tête, c'est que sorti de Valère Sarenberg, sorti de la trouée, il soit en tête à tête avec tous les favoris. Et à ce moment-là, on crée un scénario où l'un d'entre eux peut faire un long numéro en solo. Ouais. Et celui qui est capable de le faire, c'est lui. C'est ça. C'est ce scénario-là que je crains le plus.
Après, il faudra pas faire comme à travers la Flandre où ils se sont retrouvés à trois Visma et ils se sont fait avoir par le quatrième Larron, qui était Nelson Poles.
Mais donc c'est quand même pas la même course, c'est plus difficile.
Mais il faut savoir utiliser ses équipiers, et je pense que Pogacar va vouloir durcir la course de très loin, justement pour que il y ait plus que les cadors sans leurs équipiers. Mais tu disais tout à l'heure, un garçon comme Stuyven peut très bien rester au contact avec Pedersen et il pourrait se retrouver à deux Lidl face aux autres qui seraient plutôt isolés.
Alors évidemment, le temps va avoir son importance. Christophe, tu es sur place, là, tu es en direct de Roubaix. Le vent, la pluie, le soleil, qu'est-ce qu'il
y a? Alors, la pluie, il n'y en aura pas. La pluie, il n'y en aura pas. Il a plu cette nuit.
Est-ce qu'il y en a eu? Voilà, c'est ça.
Ouais. Voilà, il a plu cette nuit. C'est déterminant. J'ai pris la route hier soir. Il y a une grosse averse quand même, quasiment sur toute la route entre Paris et Roubaix. Ça a duré une partie, mais ça s'est pas déversé pendant des heures et des heures, mais il n'empêche que les pavés sur certains secteurs seront mouillés, notamment ceux qui sont un peu à l'ombre. En revanche, ce que l'on redoute le plus aujourd'hui, c'est le vent. Sud-ouest, donc trois quarts arrière pour les coureurs, avec un vent établi à 25 km/h et des rafales qui pourraient atteindre les 45 km/h. Et ça, c'est un élément à prendre en compte pour tous les coureurs, surtout si les pavés sont un peu glissants. Donc les conditions vont être compliquées quand même.
Est-ce que ça peut changer justement quelque chose pour Pogacar, sachant que bon, tout le monde, et on le dit depuis le début, mais peut-être que ceux qui sont pas spécialistes de vélo ont du mal à comprendre pourquoi on dit que c'est pas son terrain, parce qu'il est plus léger que les autres, parce qu'il est moins costaud, parce qu'il n'y a pas de montée, c'est bien ça. Hein.
Voilà. Parce que les autres sont nés sur le pavé. Tout simplement, ses adversaires sont nés sur le pavé. Van Aert, Van Der Poel, même Pedersen qui a passé énormément de temps en Belgique quand il était chez les jeunes, il n'a roulé que sur les pavés. Ils ont l'habitude. Et les deux, Van Der Poel ou Van Aert, sont des crossman. Donc plus les conditions vont être particulières, plus il va pleuvoir, clairement, plus le pavé va être humide, plus c'est à l'avantage des deux Belges et du Néerlandais. Mais, on voit que Pogacar, il est capable de tout. Il s'adapte très très vite.
Je sais qu'on disait que Pogacar n'avait jamais couru le Paris-Roubaix, mais en fait, il l'a fait en junior, chez les jeunes. Donc c'est pas.
Et puis
c'est
le pavé,
découverte. Le pavé
de Roubaix. Alors c'est pas les mêmes secteurs déjà chez les juniors. Il y a le pavé de Roubaix. Et alors on va pas faire ces spécialistes de l'urbanisme, mais le pavé du nord de la France, Sarah, tu connais,
c'est pas le même que
le vieux Coirmont, quoi. C'est pas du tout le même. Et moi, je retiens une chose, ce qu'a dit Chris, il a plu cette nuit, donc il y aura certains endroits qui vont être à l'ombre et qui vont être dangereux. Et le plus dangereux des passages que tout le monde redoute, et il n'y a pas un coureur qui n'a pas peur ce matin dans le bus, c'est la tranchée de Valère-Saint-Rambin. Pour avoir en bien plus des retours cette semaine, il y a beaucoup de pelouse cette année. Autant te dire que le gazon humide, tu connais, il faut arrêter de jouer au tennis parce qu'on glisse, mais au vélo, il ne faut pas arrêter. ils vont y aller. Et à 60 à l'heure. Et là, c'est carnage. Et quand tu ne connais pas, je pense qu'il vaut mieux être dans la godasse de Van Der Poel et de Van Aert que celle de Pogacar dans la tranchée de Valère-Saint-Rambert, parce qu'ils y sont déjà passés, ils connaissent cette expérience-là.
Autre question, parce que alors j'ai lu des pages et des pages. Vous, de Van Aert, il a une, je sais pas comment dire, un petit bouton, une petite manette
qui va
de gonflage de son pneu en fonction, effectivement. Donc sur les pavés, il faut que ça soit moins gonflé.
Tout à fait. La chance qu'il a, et d'ailleurs,
et les autres
Pauline l'avait hier.
Ce système-là.
Seule l'équipe Visma Lease a Bike utilise ça.
Ce qui est un
atout maintenant.
Que ça soit les seuls.
Faut que ça fonctionne très bien. Parce que
Paris-Roubaix est un. C'est un plat.
Et c'est surtout qu'il faut bien gérer le fait que tu peux pas dégonfler complètement et regonfler complètement. C'est une petite réserve dans l'avant, la roue avant et la roue arrière, dans le moyeu. Tu redégages 2, 0,2, 0,3, 0,4, mais ça fait vraiment la diff, surtout quand c'est mouillé.
D'accord,
parce que plus on met de grosses sections, moins on gonfle, plus on est à l'aise. Il y a un très beau papier là-dessus sur l'équipe ce matin. Plus on est à l'aise pour faire comprendre, tu vois, Fred, pour les néophytes, comprendre que plus t'as un pneu large et moins
il a déjà roulé sur le
plus
pavé,
c'est facile.
Hein.
Bien sûr.
Et la deuxième des choses, c'est que ce système, est un gros avantage quand il fonctionne, surtout sur le final, puisque si tu arrives à sortir du lot, notamment de cette fameux carrefour de l'arbre, derrière le pavé est quand même moins mauvais. Tu peux remettre une pression très confortable pour la route. Et là, dans le final, un pneu gonflé ou un pneu dégonflé, vous avez tous roulé à vélo, ça t'aide quand t'as une meilleure pression. Donc, c'est un avantage, technologique, à condition que tous les vélos en soient adaptés et qu'il n'ait pas d'autres problèmes, parce que ça n'empêche pas la crevaison.
Alors, juste pour terminer,
Pauline Ferrand-Prévot avait ce système hier quand elle a gagné.
On en reparlera à 10h30 évidemment de Pauline Ferrand-Prévot. Juste un petit tour de table rapide pour votre favori aujourd'hui. Alors Fred, j'ai bien compris, Pogacar, t'as envie évidemment. David.
Ah, moi j'ai un petit fait pour Van Der Poel. Ouais. Et j'adorerais qu'il gagne aussi.
D'accord.
Il n'a pas gagné la semaine dernière, voilà.
Sarah ?
Wout van Aert.
Ah oui, sympa ouais. aussi. Ouais. Christophe, tu nous l'avais dit hier, il me semble. Hein.
J'avais dit Van Der Poel. J'hésite entre Van Der Poel et Pedersen.
Oui, bah t'as qu'à tous les citer, comme ça t'es tranquille.
Alors moi, si j'avais, si j'avais une pièce à mettre, je mettrais Jasper Stuyven. Et mon favori, c'est Tadej Pogacar.
Ah, Pogacar quand même. Voilà, donc on continue le débat évidemment. Et bien sûr, on te retrouvera, Christophe, alors à 11h pour un autre débat vélo, puisqu'on a l'impression qu'on vit les plus belles heures du cyclisme actuellement. N'hésitez pas, 32-16, on en reparlera à partir de 11h de ce Paris-Roubaix. Et puis en direct, hein, dès 15h, à suivre en intégralité cette course exceptionnelle sur RMC. Et puis à 10h30, je vous l'ai dit, on reparlera vélo avec la belle victoire de Pauline Ferrand-Prévot hier sur ces routes de Paris-Roubaix. Dans un instant, le zapping des GG. On va prendre des nouvelles de Valentin Jamin qui visiblement est toujours en course hein, sur le marathon de Paris.
Ouais, on va prendre le petit-déj avec Mariano.
Et ben voilà, bon petit-déj à vous, hein. Préparez-vous bien. Et puis on ira aussi tiens, à Monte Carlo, on retrouvera Eric Salio puisqu'il y a la finale du Masters 1000 à midi aujourd'hui, un duel avec, entre Alcaraz et Musetti. Exactement, l'italien. C'est dans un instant, vous restez avec nous sur RMC dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport sur RMC ce matin. David Douillet, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, mais aussi merci à ceux qui nous écoutent actuellement en podcast. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. N'oubliez pas à 10h le bras de fer des GG après la défaite de Marseille à Monaco 3-0. L'OM va-t-il s'en remettre? Et puis juste avant le zapping, vous le savez, dans quelques instants, ça sera à vous de lancer le débat. Les GG vous proposent un débat et c'est vous qui choisissez. Vous allez évidemment sur le compte des GG du sport sur sur X comme on dit maintenant. On va donc vous entendre sur vos débats. On va commencer par toi David, le débat que tu voulais proposer aujourd'hui.
C'est malheureusement compte tenu de l'actualité avec les gros problèmes qu'a aujourd'hui Sébastien Chabal avec sa mémoire et donc ouais. les séquelles du haut niveau. Et je voulais élargir un peu le débat. Est-ce que le sportif de haut niveau a-t-il conscience de cette dégradation précoce de son physique et des séquelles qu'il aura peut-être pour le reste de sa vie? Est-ce que ce choix est raisonné ou raisonnable? Est-ce que la médaille vaut-elle tous les sacrifices? Voilà, je voudrais aborder ce sujet.
Ok, très bien. On entendra ce débat si il est choisi. Sarah.
Eh ben écoutez, moi je vais vous parler de Léon Marchand. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de lui parce qu'il s'était expatrié à l'autre bout de la planète, en Australie, ouais. après les Jeux Olympiques, pour s'ouvrir à d'autres choses. Et donc il a livré une longue interview où on découvre qu'au-delà de se faire plaisir et de se remettre en forme, eh bien il est blessé. C'est-à-dire qu'il s'est fait une fracture de fatigue aux côtes. Alors est-ce que pour éviter de subir trop de pression ou d'éviter le surmenage ou le burn-out, est-ce qu'il a fait quand même le bon choix d'aller s'expatrier pendant 4 mois aux États-Unis? Il est de retour
très bien
pour le boulot.
Fred, qui va nous parler de vélo sans doute.
Eh bien justement, je me disais que ça manquait un peu de vélo, donc j'ai proposé un sujet vélo et il a été rejeté, donc je me suis dit que j'allais parler de basket parce qu'on en parlait très peu. Et j'avais envie de parler de Zachary Rizaché, numéro 1 de la draft, ouais. la dernière draft, juste en suivant la draft de Victor Wembanyama, et je voulais poser la question et exprimer mon ressenti par rapport au fait qu'il puisse atteindre ou pas le même niveau qu'un Victor Wembanyama.
Oui, mais s'il est pas mal.
Il fait une très bonne saison.
Je vote pour toi, Fred.
Ah, d'accord.
Tu veux pas de vélo?
Non, il veut pas voter pour son propre débat. C'est ça qui est fou. Jérôme.
Bah, moi, je vais parler de vélo parce que ça fait longtemps qu'on en a pas parlé.
Alors, moi, je vais y aller.
Parler de ces endroits qui font peur parce qu'aujourd'hui, les coureurs vont passer dans la tranchée de Valère Saint-Rambert et ça fait peur. Quoi qu'on en dise, quelle que soit la hauteur du classement du champion. Et moi, je voulais parler plus généralement des stades, des salles, des endroits où ça fait flipper. On a
chez Fred Weiss, par exemple.
Voilà, par exemple. Est-ce que le mythe peut faire peur à un sportif, à un champion? Est-ce qu'il y a des endroits où un champion peut être...
Limoges, j'ai peur à beaucoup de monde.
Beaublanc a longtemps été une salle où les gens détestaient aller jouer parce que c'était une ambiance...
Voilà. Surtout faire du vélo.
Vous allez voter, bien sûr. Vous le savez, le principe, c'est vous qui choisissez. Vous allez sur le compte X des grandes gueules du sport et vous choisissez votre débat préféré. Tout de suite, le zapping.
RMC,
Le zapping des grandes gueules du sport.
Mais juste avant, le petit coucou, c'était une promesse. Valentin Jamin est parti pour son marathon. C'est son premier marathon. Valentin Jamin, qui fait partie évidemment de l'équipe RMC, reporter RMC, reporter tout terrain Valentin, en direct pendant son marathon de Paris. Comment ça se passe? Salut Valentin.
Salut à tous. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je viens de passer le 10e kilomètre, donc
bravo.
C'est inquiétant que je sois dans le dur dès maintenant. Et le premier petit jour plein au niveau de Bastille, et là on arrive, vous entendez peut-être les orchestres pour nous accompagner, on va arriver au bois d'Ancène, donc ça va être un petit peu plus dur, je pense, sur un moins de public, mais franchement c'est très très cool, il y a du public, et en plus il pleut pas.
Magnifique Valentin,
presque pas essoufflé,
il est incroyable, c'est notre reporter tout terrain, Valentin Jamin, qui a accepté qu'on lui pourrisse son marathon quand même, son premier marathon, c'est très sympa Valentin, on compte sur toi, on va pas dire ce que nous a dit Sarah en off, mais attention au 30e kilomètre. Hein.
Mais c'est ce que tu viens de dire.
Ouais, on va le dire quand même.
Non, je te le dis pas Valentin.
Valentin, ton courage.
Bon courage, bon courage.
Je passe pas loin de la rédaction, on est pour du gars avec Liano.
Ah bah, si tu peux nous apporter le café en même temps, c'est cool.
Si t'arrives encore à parler. Hein.
Allez, courage, on t'embête pas plus longtemps.
On pense à toi.
Et on te retrouve évidemment, et puis n'hésite pas à nous écouter, ça peut t'accompagner et puis te motiver pendant ce marathon. Il lui reste encore plus de 30 kilomètres, vous l'avez compris, donc bon courage à Valentin Jamin. Voilà, on embrasse aussi Benoît Boutron, Jean-Louis Tour et toutes les équipes d'RMC se sont lancées dans ce défi. Allez, le zapping, on commence avec cette première info, puisque ce soir, il y a Toulon-Toulouse en quart de finale de Coupe d'Europe de rugby, on s'en fout pas. Jérôme Pinault.
Ah bon, on s'en fout pas.
David Douillet.
Moi, la Coupe d'Europe, je m'en fous.
Ah d'accord. Fred Weiss.
C'est vu que c'est pas une Coupe d'Europe, je m'en fous aussi.
Très bien. Sarah Pitkowski.
Bah, je m'en fous pas.
Ce soir, on a un choc 100% tricolore en quart de finale de Coupe des Champions. Toulon qui reçoit Toulouse, une première.
Tu dis la Coupe des Champions?
Oui.
Non, je suis perdu, ça change
la
de
Champions
nom.
Cup. Ouais,
parce qu'ils vont jouer en France.
C'est plus une Coupe
d'Europe. Sudaf, c'est pour ça.
Ouais, la Champions Cup.
Ouais, mais dis Champions Cup, ça fait mieux. Parce que alors, Coupe des Champions, là, ça fait. Ok. Pouf.
Bah, c'est français, c'est tout.
Oui, c'est ça, c'est français. Ouais,
et en plus, c'est une affiche française.
C'est une Coupe d'Europe, quoi.
Bon, c'est une première, en tout cas, ce duel Toulon-Toulouse en phase finale de la compétition. Et puis, alors, il y a plein d'histoires, évidemment, entre les deux clubs. Toulouse a remporté 6 fois la compétition. Toulon a remporté 3 fois cette compétition. En plus, il y a l'histoire de Melvin Jamin, qui retrouve son ancien club, le Stade Toulousain, qui lui doit plusieurs centaines de milliers d'euros. Et justement, Pierre Mignoni, le manager de Toulon, a parlé de son joueur Melvin Jaminet, qu'il n'imagine pas perturbé aujourd'hui. Écoutez.
Le retour à la compétition, le retour dans le groupe, ça a été bien fait. Melvin, il est bien dans sa tête. Aujourd'hui, il est là. Pour lui, et comme les autres, c'est un bon match dimanche pour montrer que t'es là. Ça sert à rien de rajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas de pression. Il n'a rien à prouver. Il a à faire des choses pour l'équipe comme les autres joueurs. Il doit rester dans son rôle et surtout pas vouloir montrer. Il n'y a rien à montrer. Il n'est pas en guerre avec Toulouse.
Voilà, c'est un des matchs dans le match, évidemment. Toulon-Toulouse, tu ne t'en fous pas, Sarah?
Non, je m'en fous pas parce que encore une fois, ça traduit la très bonne santé du rugby français sur le plan européen. Et puis, ça nous fait quart demi, ça nous fait finalement sûr d'avoir un club français en finale puisque ça jouerait contre l'UBB qui s'est imposé hier. Hein.
L'UBB qui a battu le Munster 47-29.
Donc voilà, on aura forcément un français en finale de cette Champions Cup.
Champions Cup, Jérôme, ça te plaît aussi?
Pour les mêmes raisons, et puis un match Toulon-Toulouse, qu'il soit en championnat en top 14
il y a une rivalité
historique, qui est le blanc et qui est le rouge et noir, à qui appartient ses couleurs, le palmarès. J'étais gamin, je regardais, il y avait peut-être qu'un match diffusé par semaine, mais c'était toujours Toulon ou Toulouse, et le Toulon-Toulouse, tout le monde s'arrêtait dessus, c'est historique, c'est un PSG Paris Saint-Germain OM dans le championnat de football, c'est un match qu'on ne peut pas
se foutre de ce match. Et ça sera à 16h évidemment à suivre en direct et en intégralité sur RMC. La finale de Monte Carlo qui oppose Carlos Alcaraz à Lorenzo Musetti, l'italien. C'est à midi aujourd'hui, à suivre également sur RMC. On s'en fout pas. David Douillet.
Non, je m'en fous pas.
Sarah Pitkowski.
Ah bah non.
Fred Weiss.
Je m'en fous.
Jérôme Pinault.
Arthur Fils n'étant pas là, je m'en fous.
Très bien. On va retrouver Eric Salio avant de vous entendre, qui est en direct de Monte Carlo, qui lui ne s'en fout pas, évidemment. Salut Eric.
Salut Eric.
Salut à tous. Ouais, je suis déjà dans ma petite cabine.
Eric ne peut pas s'en foutre parce qu'il pourrait se dire, j'y fais beau, je vais à la plage au lieu de regarder la finale, mais.
Il fait froid. Eh
ben, c'est pour ça. Ah, il va être obligé de la regarder.
Et tu vas nous en parler parce que l'Italien Musetti, est-ce qu'il peut faire trembler comme l'a fait Arthur Fils, Carlos Alcaraz? Est-ce que c'est une finale qui mérite le coup, quoi. Il faut la suivre.
Ah, et pour ceux qui connaissent pas Mosetti, c'est un immense talent, c'est un revers à une main, c'est un Italien qui a la science de la terre battue. C'est, en Italie, ils adorent la tactique, et donc lui, il a été très bon toute la semaine. J'ai peur qu'il soit un peu crevé. Pourquoi? Parce qu'il a effectué plusieurs remontadas durant toute la semaine. Maintenant, on espère surtout que le match va avoir lieu. Je viens de croiser le juge arbitre, il avait le sourire, et c'est vrai qu'au moment où on se parle, il y a un petit rayon de soleil, et il y a Alcaraz qui est déjà à l'entraînement. Donc, c'est un horaire totalement inhabituel, hein, mais bon, les organisateurs n'avaient pas le choix, ils ont regardé les cartes météo, c'était pas bon du tout dans l'après-midi. Donc on a avancé à 12h et on veut surtout pas qu'il y ait un trou dans le palmarès comme en 80, puisqu'en 80 la finale entre Connors et Villas n'avait pas pu s'achever, s'était arrêté à 5 partout, c'était un lundi de Pâques et Connors n'avait jamais voulu revenir en Europe pour finir ou recommencer la finale.
Et d'ailleurs, si vous voulez connaître l'histoire de cette finale non jouée, vous écoutez notre podcast avec Eric, on est revenu sur
cette
finale.
Il est en ligne, oui, t'as raison ça.
Ouais. Ouais. Voilà.
Depuis ce matin.
Tour numéro 1, bien sûr.
L'effet rétro.
Un mot, David et Sarah, sur cette finale. David, tu vas suivre aussi?
Ouais. Non, mais je vais suivre parce que moi, j'aime bien. Ce sont deux jeunes, hein, et je crois qu'ils ont 20, 21, 22, 23. C'est de la même génération. Alcaraz a plutôt l'avantage. Je crois qu'il l'a battu trois fois contre une. Donc, c'est des gens qu'on va retrouver. C'est déjà l'après Federer, l'après Nadal, Djoko, etc., etc. On est en train de se projeter dans les futures finales. Donc déjà de les voir ici, là, au premier niveau. Est-ce que ces gens-là, avec d'autres, hein, Sinner et d'autres, vont mettre un coup de pied au séant des anciens? Bien. Bah c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est...
Je suis content que tu aies dit séant. Oui. C'est bien. Non, c'est très bien. Sarah, un petit mot rapide.
Oui, cette finale, elle est importante parce que le début de saison d'Alcaraz n'est vraiment pas terrible. Hein. Sorti en quart à l'Open d'Australie. Il y a surtout cette très, très, très grosse déconvenue du côté de Miami où il perd contre David Goffin. Voilà, il faut absolument que qu'Alcaraz monte en puissance et cette finale est de bon augure. C'est d'ailleurs sa toute première finale à Monaco, c'est assez rare pour le signifier. Et donc voilà, il faut que le numéro 3 mondial s'impose et qu'il relève son début de saison très moyen parce que celui de Zverev n'est pas terrible non plus. Et on attend le retour de Sinner du côté de Rome.
Évidemment. Merci beaucoup, Eric.
Si Alcaraz l'emporte, oui, il récupère la place de numéro 2 mondial.
Ah, donc c'est un enjeu évidemment important. Merci, Eric. Ouais. On suivra ça à midi, donc, cette rencontre entre Alcaraz et Musetti. On sera là. On sera là également à 17h. Ne manquez pas le Grand Prix du Bahreïn avec la 4e place de Pierre Gasly sur la grille de départ. Ça, c'est très intéressant pour le Français qui avait fait le 5e temps. Mais puisque les Mercedes ont été punis et rétrogradés, il est derrière Piastri, Leclerc et Russell. Pierre Gasly qui partira 4e, à suivre avec Jean-Luc Roy à 17h ce Grand Prix de Bahreïn. Vous restez avec nous. Nous, on continue évidemment nos débats dans les grandes gueules du sport avec, dans un instant, l'OM au programme, le bras de fer. Est-ce que l'OM va se remettre de la claque reçue face à Monaco? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.